Vous allez vous mettre si près quand vous allez tendre le truc, d'accord? Non, non, c'est pour savoir, pour être sûr. Pour ça, je pourrais parler
C'est
doucement.
ça.
C'est bien.
Alors, Belinda Cannon, bonjour.
Bonjour.
Et merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous décrire la pièce dans laquelle nous sommes?
Eh bien, pour obtenir le silence complet, nous avons été obligés de nous mettre dans ma petite chambre, sur le lit. C'est un endroit propice pour parler d'érotisme, non?
Nuit intérieure. Est-ce que vous pouvez... On va commencer par ça, nuit intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire, nuit intérieure? Vous décrivez à plusieurs moments dans votre roman cette, enfin, vous définissez cette expression nuit intérieure. Est-ce que vous pouvez nous le dévoiler un petit peu?
Je peux essayer de vous dire ce que j'ai essayé d'attraper avec cette expression et ce dont il est question dans le roman. Donc c'est un roman d'amour, disons, c'est un roman, le roman d'une liaison, mais par nuit intérieure, j'ai essayé de dire quelque chose qui est extrêmement difficile à restituer en mots, puisqu'il s'agit d'une manière d'entrer dans l'érotisme, de s'engager dans l'érotisme et de se livrer, de s'exposer. Et je crois que à travers l'érotisme, on peut arriver à un point de rencontre avec l'autre qui nous conduit à ce que j'appelle donc le nu intérieur, c'est-à-dire ce dévoilement, vous voyez, je suis obligée de prendre des tas de périphrases pour décrire quelque chose qui est lié à l'érotisme. Ce que j'ai voulu aussi dire à propos du nu intérieur, ce que j'ai essayé de restituer, c'est une dimension que je trouve solaire dans l'érotisme. Quand on a voulu faire la quatrième de couverture avec l'éditeur, il m'a proposé, dans la quatrième, il voulait donner des références d'érotisme littéraire. Et il m'a proposé une référence à Bataille. Et alors j'ai protesté, j'ai dit mais non, Bataille, non que j'ai pas beaucoup d'estime pour Bataille, mais je lui ai dit c'est pas du tout le type d'érotisme que je défends ici. Et ça c'est assez curieux et intéressant de voir comme dans tous les textes érotiques, la majorité des textes érotiques et des grandes références littéraires érotiques que nous ayons sont toutes du côté de la transgression, du mal, de l'ombre, des ténèbres, etc. Et là aussi je pense qu'il y a quelque chose qui a extraordinairement changé dans nos modes d'appréhension de l'érotisme. Je pense qu'on est en train, justement, parce qu'on est en train de déculpabiliser complètement l'érotisme, on est en train de passer à une autre version, beaucoup plus solaire, justement, joyeuse. Et c'est ça que j'ai voulu dire aussi par le nu intérieur. Enfin, j'espère avoir réussi avoir restitué cette dimension solaire, belle, joyeuse, profondément joyeuse de l'érotisme, et non pas du côté de la transgression, du mal, etc. Donc ça fait partie du nu intérieur, la joie solaire.
Vous passez par la fiction pour raconter ces choses-là. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est nécessaire? Parce qu'il y a bien dans votre roman toute une partie d'analyse qui est sous-jacente à toute cette histoire. Pourquoi passer par la fiction et par le roman?
Je pense qu'on peut. Enfin, là, je suis passée par la fiction parce que je voulais raconter quelque chose sur l'amour aujourd'hui, sur la difficulté de saisir ce que l'on entend quand on parle d'amour. J'ai en effet voulu m'inscrire dans cette vieille tradition du roman d'analyse qui met en cause la définition même du mot amour. Moi, plus le temps passe, plus dire amour, je t'aime, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne sais plus très bien ce qu'on met derrière. Et donc ça, j'ai voulu l'exprimer, l'exposer. Et pour exposer ça, cette espèce d'incertitude sur le mot amour, le mieux, c'était un déploiement romanesque. C'était de créer une situation et des personnages. Et de montrer comment, dans les personnages eux-mêmes, on n'arrive pas à saisir ce qu'ils sentent, et eux-mêmes, je veux dire, n'arrivent pas à saisir ce qu'ils sentent. Donc ça, c'est l'importance de la situation romanesque. Et puis, pour atteindre le nu intérieur, pour raconter ce qui se passe dans le nu intérieur, c'est-à-dire cette incandescence du corps et de l'esprit, de ce que j'appelle du corps-esprit, en un seul mot, là aussi, la situation, enfin, il me paraissait plus intéressant de mettre les personnages en situation et d'essayer de décrire par approximation ce qu'ils vivent.
Dans cette situation, la personne qui parle, c'est un homme. Pourquoi ce choix? Pourquoi un homme? Pourquoi rentrer dans la peau de cet homme?
Je fais souvent ça d'abord. Trois romans sur six ou quatre sur sept sont écrits du point de vue de l'homme. C'est une raison très simple, c'est que je pense qu'aujourd'hui encore, Dans nos imaginaires, l'homme, c'est la neutralité, c'est l'universel, tandis que la femme, c'est un homme plus certains traits caractéristiques qui en font une femme. Et je n'avais pas envie d'écrire le roman d'une femme. J'avais envie d'écrire le roman de l'amour et d'une situation presque abstraite de l'amour. Alors c'est paradoxal parce qu'évidemment, je décris des hommes et des femmes et dans l'amour et dans la sexualité, on est particulièrement homme et femme, si à d'autres moments on l'oublie ou on n'en tient pas compte. Mais quand même, j'ai voulu que ce soit un roman sur la problématique de l'amour et de l'érotisme. Et c'était plus facile pour moi de me mettre à cette espèce de distance neutre que représentent les hommes, encore et pour l'instant, dans notre vision des genres dans la société.
Dans ce roman, il y a trois personnages. Il y a donc ce couple qu'on suit, qui sont très présents, avec lesquels on vit en fait cette histoire d'amour, et l'une qui est là, mais sans être là vraiment, dont on parle un peu, dont l'homme parle un peu, dont il se souvient surtout, parce qu'elle elle a l'air tellement loin, loin de lui. Quelles sont les deux définitions de cet amour qu'on peut trouver à travers ces personnages ?
J'ai voulu mettre en scène cette problématique du couple aujourd'hui aussi. C'est le grand sujet de ce roman. Je pense qu'on est arrivé à un point de transition dans nos sociétés, une époque de transition dans laquelle on continue d'entrer dans les couples, en amour et dans les couples, en pensant qu'on fait un couple pour toujours, sur le modèle de Tristan et Iseut, et qu'en réalité, depuis pas très longtemps, depuis le XXe siècle, il y a quelque chose qui s'oppose fondamentalement à cet amour pour toujours qu'on voudrait bâtir, à ce couple pour toujours qu'on voudrait bâtir, et c'est la question du désir, justement, du désir sensuel. Et le désir sensuel, qui a été magnifié, si je puis dire, par la psychanalyse, par l'émancipation des femmes, qui ont fait des femmes des sujets de leur désir, tout cela a fait qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que pas de couple réussi, pas de couple qui fonctionne, sans un érotisme qui marche, sans que le désir fonctionne. Or, comme vous le savez, la temporalité du désir, elle est très brève. Elle est en tout cas beaucoup plus brève que le couple. On peut faire un couple et passer toute sa vie dans ce couple. Je ne peux pas croire, ou alors ça doit arriver, mais c'est très rare, que le désir brûlant se maintienne toute sa vie. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces deux options que nous avons dans l'amour? Un couple qui dure toute une vie, qui ça nous plaît bien, cette idée d'un compagnonnage, d'une complicité, etc. Et le désir et la nécessité, le désir du désir dans lequel nous sommes pris. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en scène avec mon personnage, une femme qu'il aime, qu'il a aimée et qu'il a désiré passionnément. Et puis tout à coup survient ce désir brûlant avec une autre. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation? Il est un peu ligoté dans cela. Alors évidemment, c'est pas du tout un roman sur la tromperie, c'est pas vraiment un roman sur le trio. Je veux dire que je m'en fiche de ça, c'est un vieux thème qui a été traité mille fois. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était de mettre en situation à nouveau cette espèce de moment de blocage presque dans nos sociétés, parce qu'on a ces deux systèmes de fonctionnement à l'égard du couple. L'amour pour toujours, le désir brûlant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'en sort?
Le personnage le dit, il est un homme de son époque. C'est quoi exactement un homme de son époque?
Un homme de son époque, c'est un homme qui est féministe d'abord. C'est un homme qui aime les femmes et qui les respecte et qui les qui a un rapport égalitaire avec les femmes. Et c'est aussi un homme qui a assumé la question du désir précisément, qui a traversé des désirs, qui en a connu, vécu maintenant dans les générations. À part les papis et les mamies très très âgés, tout le monde commence à avoir eu une vie suffisamment riche. Hein. On n'est plus à l'époque où on avait un partenaire ou deux dans toute sa vie. Tout le monde en a eu plusieurs. C'est en ce sens que je dis qu'il est un homme de son temps, il a connu des amours, il les a traversés, il a profité de la libération sexuelle, etc.
Il a aussi un regard réflexif sur ses amours qu'il a vécues. On a l'impression qu'il est quand même tout sentiment quelque part, cet homme. Il assume en fait ce qu'il est, il assume les désirs qu'il a pu avoir, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir parfois de certains hommes qui n'auraient pas forcément de réflexion sur eux-mêmes et sur leurs désirs, qui n'auraient pas à discuter de cet amour et ce désir.
Vous avez raison, parce qu'il y a encore dans ces différences de genre aujourd'hui qu'on constate, c'est vrai que souvent les hommes sont un peu barrés dans l'expression de leur intimité, de leur vie sentimentale, etc. Le mien, j'en ai fait un héros à la Adolphe de Benjamin Constant, un héros de l'analyse, de l'auto-analyse. Donc il s'analyse, il essaie de comprendre, ce qui n'empêche pas qu'il est assez plein de mauvaise foi aussi. À certains moments, on sent bien, c'est son point de vue qu'il donne, et son point de vue, il essaye un peu de s'arranger, et il le sait vaguement.
Il justifie pas mal, effectivement, la situation. Il y a et vous l'avez dit hein, tout à l'heure, cette idée d'un érotisme qui est quasiment considéré comme, alors, soit pas comme une prison, soit comme une sorte d'obligation. Il y a un moment où il croise un autre personnage, Patricia, qui lui explique qu'elle aimerait vivre une histoire d'amour avec un prince charmant, comme les petites filles pourraient l'imaginer, mais elle se sent quasiment obligée de vivre, d'avoir une vie sexuelle intense, de rencontrer des partenaires, comme si le fait d'être de cette époque faisait qu'on était contraint de vivre cette vie-là.
Oui et non, vous voyez là-dessus, moi je ne prends pas parti, je ne prends pas position. Encore une fois, c'est l'avantage du roman de pouvoir mettre en scène des personnages avec qui on n'est pas forcément d'accord, mais dont le point de vue existe. Moi je pense que c'est extraordinaire la situation où nous sommes, c'est-à-dire cette liberté du désir, cette liberté de l'érotisme. Moi je trouve ça extraordinaire, je ne suis pas d'accord avec Patricia qui veut rencontrer le prince charmant. Mais bon, tant mieux, elle veut rencontrer le prince charmant. Il n'y a pas d'obligation de la sexualité. Je veux dire que... Aujourd'hui, il y a des gens qui entrent dans des systèmes de consommation sexuelle frénétique, je trouve ça pas intéressant. Et puis, surtout, peut-être que là, je parle en femme un peu mûre, mais surtout quand on a 20 ans, peut-être c'est formidable de faire l'amour dans tous les coins, de toutes les manières, etc. Au bout d'un moment, on a compris ce qui se joue et on a envie d'intensité. Et cette question de l'intensité, pour moi, qui est capitale, on ne l'obtient pas en faisant l'amour tous les jours avec quelqu'un de différent. Je veux dire qu'il y a un certain engagement et c'est ça que j'ai voulu... exprimé dans l'idée du nu intérieur. Il y a une sorte d'engagement, de prise de risque dans la sexualité et d'approfondissement de ce qu'on est, au fond, qui demande un peu de, comment dire, encore une fois, de ne pas faire de l'amour comme si on consommait des McDonald's. Et voilà. Donc Patricia, à mon avis, a tort en cherchant le prince charmant, mais en même temps, je ne fais pas du tout la promotion de la consommation sexuelle, que je trouve ça pas du tout intéressante, plus intéressante.
On rentre effectivement dans ce roman, on vit en fait cette histoire d'amour avec les personnages et effectivement ça parle d'érotisme, c'est quelque chose de... Il y a une attirance très forte qu'on ressent entre les personnages, ça commence par très rapidement par une relation sexuelle entre ces deux personnages et il y a pourtant cette histoire d'amour naissante qui traverse tout le roman. On a vraiment l'impression de vivre avec eux cet amour très fort. Pour vous donc l'érotisme est forcément lié à un amour, en tout cas ce qu'on pourrait définir comme un amour, si, voilà, vous n'avez pas de définition parfaite de l'amour, mais comment on peut comprendre en fait ce lien érotique ?
Exactement, vous voyez, c'est difficile d'en parler pour vous, mais pour moi aussi. C'est-à-dire que la vieille histoire de l'érotisme est liée à l'amour, ça c'est presque une contrainte du 19e siècle. C'est-à-dire, surtout, on ne couche pas hein, si on n'est pas dans le sentiment. Alors là, vous devinez, ça ne m'intéresse pas du tout non plus. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il me semble que dans l'engagement érotique, quand il est vraiment puissant, quand on désire vraiment l'autre, quand on veut l'atteindre, quand on veut le pénétrer ou être pénétré, quand on veut cette fusion des corps, c'est bien... Enfin, on prend tout l'autre. On ne peut pas faire l'amour avec un imbécile ou une imbécile, on n'en a pas envie. On peut en avoir envie d'ailleurs, mais alors on n'atteindra pas le nu intérieur. Quand on veut vraiment aller loin dans l'érotisme, il faut quand même qu'il y ait une connivence des esprits et une... Comment dire ? Est-ce que c'est bienveillance ? Est-ce que c'est... J'essaye de détourner cette problématique du sentimental. Et il y a quelque chose de l'admiration... pas comment vous dire, de la connivence, oui, avec l'esprit de l'autre. Alors, est-ce que c'est de l'amour, ça? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis que l'amour nous pose un problème. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Je ne sais plus. Moi, je ne sais plus ce que c'est que l'amour. Mais en tout cas, je suis sûre que dans l'engagement érotique, quand on le veut brûlant, que si on l'espère, ce qui n'arrive pas si souvent, si on espère atteindre ce que j'appelle le nu intérieur, alors l'autre, dans son être, c'est-à-dire aussi bien avec son esprit, l'autre, le choix de l'autre, l'élection d'un autre est capital.
Et pourtant, au début de la rencontre de ce personnage avec Éléonore, qui est donc sa maîtresse, si on peut l'appeler comme ça, il y a une contradiction encore une fois hein, chez ce personnage qui se dit qu'il n'arrive pas à éprouver de la fierté pour cette Éléonore. Il a de la fierté pour sa femme, Lune, il n'en a pas pour Éléonore. Et donc, il n'arrive pas à retrouver intellectuellement ce que Lune lui apporte. Et donc, Éléonore ne lui apporte pas. Donc, quelque part, il y a encore une contradiction dans tout ça.
Oui, c'est pour ça aussi que je parle de mauvaise foi à l'égard du personnage. C'est-à-dire que c'est aussi sa manière de résister à Eleanor, de dire bon, c'était pas une femme vraiment très intéressante. C'est sa résistance à elle. Et puis peut-être aussi, alors là, vous voyez, je bricole moi-même, j'ai essayé d'exprimer cette idée que précisément le charme de quelqu'un, ce qui nous charme dans quelqu'un, ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait décrire quand on est froidement assis dans son canapé. Là, on est chaudement assis sur mon lit, mais quand on est froidement assis sur son canapé et qu'on essaie de décrire quelqu'un qui nous conviendrait vraiment, peut-être qu'on va dire certaines choses. Et puis soudain, l'autre, quand il se présente, bah, il ne colle pas exactement avec l'idée qu'on se fait d'une personne dont, par exemple, on serait fier. Et pourtant, le charme de l'autre est bouleversant. Oui, donc ils se rencontrent dans ce qu'on appelle une milonga, c'est-à-dire un bal tout simplement, un bal de tango comme il y en a beaucoup maintenant, enfin dans Paris en tout cas il y en a quasiment tous les jours. Ils se rencontrent dans la milonga et en effet, bon moi je suis une danseuse de tango et je me suis servie du tango parce que je trouve que c'est une image vraiment très belle et très forte de l'érotisme en effet. Parce que c'est une danse de couple, alors il y en a pas mal de danses de couple, mais c'est une danse de couple et de déplacement. Il faut se déplacer dans une salle de bal. Ça demande une science extraordinaire pour arriver à la fois à danser cette danse et à se déplacer. Et surtout, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le tango, c'est le degré d'écoute que cela demande du corps de l'autre. Ça, c'est une situation de tension et d'écoute, de connivence qu'on essaye d'obtenir avec le corps de l'autre, dont le seul équivalent que je connaisse, c'est justement dans l'étreinte, quand on fait l'amour. Cette intelligence du corps de l'autre que demande le tango, pour ça, est extraordinaire. Si on voulait pousser, je trouve que le tango représente assez bien aussi nos façons d'aimer contemporaines, c'est-à-dire, dans le tango, la loi, c'est qu'on danse 4, 3 ou 4 tangos ensemble, et puis il y a une interruption, une sorte d'interlude dans la musique, et là, on doit changer de partenaire. Donc je dis, le tango, c'est comme une espèce de club libre-échangiste assez courtois, mais où on doit absolument changer de partenaire toutes les tandas, ce qu'on appelle les tandas, les séries de 3-4 tangos. Et ça me paraît représenter assez bien le couple contemporain. C'est-à-dire à l'opposé du bal d'antan, du fameux bal du 14 juillet, où nos grands-parents allaient se rencontrer, se marier, faisaient des enfants, etc. Dans les milongas, rotation des partenaires. Et ça, je crois que c'est vers ça, vers ce type de rotation que vont les couples contemporains. Au bout d'un mois, l'ouvert se transforme, s'intensifie, plus loin que la joie. Nous empruntons une voie qui conduit vers l'extrême du désir. Difficile à raconter. J'essaye, pour autant qu'on puisse se souvenir de l'incandescence même. Chaque jour donc, je traverse deux quartiers, je monte 4 étages et je retrouve sa splendeur, elle que je dénude et que j'écartèle, que je fais fondre et que je lèche, lui murmurant des mots brûlants pour qu'elle dépose sa majesté à mes pieds. De même, je m'incline devant elle, me rends au sol et me fais servant de son plaisir. Chaque jour, nous cheminons vers plus de crudité, gestes et mots, comme deux danseurs indécents, irradiés et joyeux. Le corps d'Elénor n'est pas seulement beau, mais habité avec élégance. Je sais que sa beauté n'a pas si grande importance, qu'elle a sa source dans mes yeux. Moins belle, elle m'aurait quand même captivée. D'une toute autre portée son élégance, ses vêtements raffinés comme sa parole, ses gestes, son allure. Lorsque nous nous jetons sur le lit, avec cette démesure et cette obscénité qui nous ravissent, c'est son manteau d'élégance qui glisse jusqu'au sol. Haute bassesse du désir. Jusqu'où cette crudité ira-t-elle, nous ne le savons pas. J'ai accédé, mais elle aussi, je crois, à un état d'être nouveau, une disposition soudaine, un mystère. 4 étages, donc. Elle a entendu mes pas dans le couloir et elle m'attend derrière la porte. Ne l'ouvre pas tout de suite. Écoute mon souffle, bruyant d'avoir monté si vite les escaliers. Je la sais à quelques centimètres, peut-être l'oreille collée au bois, proche et inaccessible. Elle pourrait ne pas ouvrir, mais elle ne le peut pas. Pourrait, mais ne peut. C'est ainsi pour moi aussi. Ensuite, J'ai d'elle cent images qui tournent en une luxurieuse noria, fesses sur le bord du canapé rouge et jambes très écartées, mains posées derrière son dos pour résister à mes poussées, poitrine projetée en avant, regard provoquant, « Vas-y, prends-moi », et je prends sa splendeur, comme tout à l'heure ou une autre fois, assise sur moi ou posée sur le flanc, à son tour elle me prendra. Ou encore, quatre pattes et la tête enfouie dans les draps, me présentant sa croupe et son bel œillet où j'ai soin de ne pas m'épancher, dur et durant, dit parfois Elénore en riant. Ou mon visage dans son entrecuisse et ma langue allant, précise, minutieuse, guidée par ses gémissements.